When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison.
J'ai fumé tout le temps dans ma cellule. Et sur les 6 derniers mois, j'étais tellement énervé qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas fumé. Et jamais, 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 j'ai éteint un joint parce qu'un surveillant arrivait, m'amenait ma gamelle ou autre. Je dirais pas qu'il y a une tolérance de la part de l'administration. Je pense qu'il y a une tolérance de la part des surveillants qui sont sur le terrain et qui savent très bien que leur problème, c'est pas d'aller faire chier le mec qui est en train de fumer un joint et qui fait chier personne.
Ce mec-là, Eric l'a été pendant 3 ans. Un détenu, enfermé entre 4 murs, isolé, désœuvré, pour qui la fumette est devenue un moyen de s'évader, provisoirement, artificiellement, en tout cas la seule et unique forme d'évasion.
Et Eric n'est pas un cas isolé. Dans les prisons françaises, le cannabis est omniprésent, un phénomène peu documenté, à côté duquel on ne pouvait pas passer.
Banana Kush, épisode 15, c'est parti.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ?
Des bananes.
Vous en voulez ?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau !
Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
Salut Camille.
Salut Christophe.
Alors on est très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Banana Kush consacré à la consommation de cannabis en prison. Parce qu'on sait que le shit peut vous envoyer en prison, mais on ne raconte pas assez comment la prison peut vous faire tomber dans la weed.
Pour être tout à fait honnête, cet épisode il est né de notre rencontre avec Eric. Eric, c'est un auditeur de Banana Kush qui nous a contactés il y a quelques mois sur notre page Facebook. Salut les gars, je viens de tomber sur votre podcast, c'est cool ce que vous faites. Pour ma part, 3 ans en prison pour trafic de cannabis, donc des initiatives comme les vôtres qui cherchent à dédiaboliser la consommation, je ne peux que les saluer.
Forcément, ça intrigue, alors on a engagé la conversation. Et rapidement, on a eu envie de le rencontrer en vrai, Eric, pour recueillir son histoire et la partager avec vous. Quand il est arrivé pour l'interview, on a découvert un grand gaillard à la peau noire, portant fièrement ses longs dreads en bazar sur la tête.
Et on le précise non pas parce que tous les gens à dreadlocks fument des joints, mais parce que c'est un détail important dans le récit, vous allez voir.
Eric, c'est un mec très intelligent, observateur, qui a beaucoup de recul sur son histoire et une analyse très fine des situations qu'il a traversées. Il s'est replongé avec nous dans ses 3 années de détention, qui ont pris fin il y a très exactement 1 an.
Banana Kush.
Yes, we have no bananas.
Sur Nick, la radio.
We have no bananas today. Bananas today.
Bonjour Eric.
Bonjour Christophe, bonjour Camille.
Bonjour.
Je m'appelle Eric, j'ai 37 ans, je viens d'Ozoir-la-Ferrière où j'ai grandi en Île-de-France. J'ai commencé à consommer du cannabis à l'âge de 14 ans. Et oui, je peux le dire tout de suite, c'est un peu tôt. J'en ai également vendu. J'ai été arrêté pour ça plusieurs fois et j'ai passé 3 ans en prison pour trafic de cannabis. Donc de novembre 2015 à novembre 2018, j'ai été incarcéré pour trafic de cannabis.
Donc tu arrives en prison, quel monde tu découvres ?
Je suis arrivé dans un monde froid, dur, mais fait de solidarité aussi. Et la solidarité, elle est très importante au début, parce qu'au début, effectivement, quand on arrive en prison, on n'a rien. Donc on s'entraide, on se dépanne des clopes. On se dépanne des spliffs pour ceux qui en ont.
Et alors le premier spliff, une fois en prison, il arrive quand ? Il arrive dès le premier jour ? Est-ce qu'il faut quand même chercher, gratter un peu ?
Franchement, le premier spliff, il peut arriver le premier jour. T'as des voisins partout en prison. Donc il suffit que tu aies de la chance, que tu arrives dans une cellule où ton voisin du dessus est équipé et sympa, et descend un petit lasso. Et puis voilà, hein. C'est bon, toi tu peux faire ton bon premier dodo tranquille, si t'as de la chance. Sinon faut attendre un peu le lendemain matin à la promenade, il y a bien quelqu'un qui en fera tourner un.
Quand tu dis il fait descendre un petit lasso, c'est-à-dire concrètement par la fenêtre ?
Absolument, oui. Alors par la fenêtre, il faut bien que, même s'il y a des grilles, il y a toujours des petits trous, quoi. Il faut quand même qu'on puisse que l'air passe et autres, et donc par la fenêtre, donc un lasso, hein, c'est soit un bout de drap au bout duquel on attache ce qu'on veut transmettre à son voisin, ou un bout de sac plastique ou autre, enfin tout ce qui peut effectivement faire un corde, ou en tout cas faire le lien d'une cellule à l'autre, quoi.
Donc si je comprends bien ce que tu nous racontes là, c'est pas très compliqué de trouver de la weed ou du shit en prison.
Le rire en dit beaucoup.
En fait, non. Alors c'est intéressant parce que moi j'ai fait deux établissements pénitentiaires et donc j'ai deux expériences un peu différentes, mais au final qui sont à peu près les mêmes. Hein. Dans les deux cas, c'était simple de s'en procurer. À Fleury, c'était particulièrement facile. Et à Fleury, je dirais que les tarifs sont à peu près similaires aux tarifs de l'extérieur, carrément. On est vraiment dans un truc à Fleury où c'est hallucinant parce que, comme on est en région parisienne, en fait, les gens sont proches de chez eux, ils ont une facilité à avoir des parloirs. Et on va pas rentrer dans le détail de comment ça rentre et autres, mais le fait est qu'effectivement, à Fleury, il n'y a aucun problème pour trouver du shit. Et t'as des gens qui disent qu'ils font plus d'argent à l'intérieur qu'à l'extérieur, quoi, tu vois. Donc effectivement, on se retrouve dans une situation qui est hallucinante où finalement des gens enfermés pour trafic de cannabis continuent de trafiquer à l'intérieur. Ubuesque.
Alors, sans rentrer dans les détails de comment ça rentre, il y a le parloir, il y a aussi, je pense que ça c'est assez connu, des jets par-dessus le mur de la prison. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'on n'imagine pas pour faire rentrer de la drogue ?
Je ne voulais pas rentrer dans le détail, c'est tout simplement parce que je n'ai pas envie qu'on jette l'opprobre sur une profession ou autre. Parce que typiquement, j'allais dire qu'à Fleury, il y a peut-être une part des surveillants qui des fois prend part au business, mais de toute façon je peux le dire puisque c'était public. Moi, il y a un surveillant que j'ai connu pendant le début de ma détention, dont on a parlé dans un article ensuite, parce qu'effectivement il s'est fait attraper, il prenait part au trafic. Moi-même, pour être honnête, j'ai rentré deux fois du shit, pas à Fleury par contre. Là où j'étais ensuite à Châteaudun, j'ai rentré du shit à Fleury une fois au parloir et une fois j'étais sorti en permission. Donc quand je suis rentré, je vais même le dire, je l'avais mis dans mes cheveux.
Men Power Action 3, pour les hommes qui gagnent à tous les coups.
Je l'avais mis dans mes cheveux.
Ah, moi je faisais ça pour rentrer en boîte avec de la...
Ah ouais, non, ben, carrément, quoi. En fait, c'est simple. Moi j'ai vu que mes cheveux, ils les avaient fouillés qu'une seule fois, en fait, quand j'avais changé de prison, quand j'étais passé d'un établissement à l'autre. C'est la seule fois où ils ont fouillé mes cheveux. Donc à partir de 10 passages par la fouille sans qu'on y touche, je me suis dit, allez, un bon 50 meuges. Allez hop.
Ça c'est pour la manière dont ça rentre entre les murs. Une fois que c'est à l'intérieur, donc tu disais qu'il y a des personnes qui gèrent le trafic au sein de la prison, qui s'en font un petit métier entre guillemets pendant leur détention.
Oui. Bah, y a des gens qui n'ont aucun moyen d'avoir de l'argent. De l'argent en numéraire, il y a des gens qui n'ont aucun moyen de recevoir des mandats, mais qui ont beaucoup plus de facilité à ce qu'on leur donne du shit. Donc il y a des gens effectivement qui vont se faire rentrer du shit pour s'en servir comme monnaie d'échange, pour qu'on leur paye des courses ou des choses comme ça. Il y a tout un tas de choses en plus aujourd'hui qui facilitent le trafic, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'en ai rentré une fois ou deux, mais le reste du temps je l'achetais. Et donc pour payer, on utilise, comme je le disais, soit les cantines. Le produit de base qu'on échange en général, c'est les paquets de cigarettes. Ben après, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on peut également payer avec les cartes PCS. Donc les cartes PCS, en gros, c'est un système de code un peu comme les recharges téléphoniques. Donc tu te présentes dans un bureau de tabac et tu demandes une carte PCS à 50 €. On va te donner un code à 50 €. Tu transmets ce code à la personne que tu veux créditer. Elle insère ce code sur son application PCS. Elle est créditée de 50 €. Donc moi, en gros, à l'intérieur, j'avais un petit téléphone avec lequel je pouvais envoyer des SMS ou autre. Je demandais à un pote dehors d'aller me chercher un code PCS, il m'envoyait ce code. Je donnais le code à un mec à l'intérieur, il me donnait mes 50 balles de Toshi, et lui, il était crédité de 50 €.
Ok. Sachant que le téléphone portable, c'est illégal aussi en prison?
Illégal, illégal, absolument. Ouais. Oui, oui. Ah, complètement.
Secret, c'est un jeu électronique avec un téléphone qui parle. Pour gagner, appelle tes copains, trouve des indices et devine qui est ton amoureux.
Alors pour revenir à la question du trafic à l'intérieur de la prison, ouais. Comment c'est organisé? Est-ce que c'est très organisé? Est-ce que c'est des mecs qui font ça un peu dans leur coin, isolés pour se faire un peu de sous? Est-ce que c'est connecté avec le commerce, avec le business qui est en dehors de la prison?
Est-ce que chacun fait ce qu'il veut aussi, ou est-ce qu'il y a des territoires gardés?
Bon, déjà, personnellement, je ne prenais pas trop part, enfin, je ne prenais même pas part du tout au business. Donc, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais je pense pas qu'il y ait quelques territoires que ce soit, quoi. Parce que moi, personnellement, quand je voulais acheter à quelqu'un, c'était au premier qui offrait le mieux, au premier sur lequel je tombais. D'une semaine à l'autre, t'es pas sûr d'avoir. Donc, encore une fois, non, tu fais avec celui qu'il y a, tu fais avec ce qu'il y a. D'autant plus que la différence notable que j'ai pu voir, c'est effectivement entre Fleury et Châteaudun. La facilité qu'on avait à se fournir à Fleury, c'était pas la même à Châteaudun. Et donc, à partir de là, on se rendait compte, effectivement, le prix du cannabis était beaucoup plus important à l'intérieur. Et les relations entre les détenus n'étaient pas les mêmes. Les relations étaient beaucoup plus tendues. Et je l'impute assez aisément, pas totalement, mais en tout cas en grande partie, effectivement, à cette plus grande difficulté à s'approvisionner en cannabis.
Tu es en train de nous dire que la circulation de cannabis en prison pacifie les relations sociales dans la prison.
Absolument. Je pense que je ne peux pas mieux le dire. Mais clairement, le cannabis contribue à l'amélioration des relations entre les détenus, mais également entre les détenus et le personnel encadrant.
Oui, mais justement, en parlant de ce personnel, des matons, des surveillants, j'imagine que tout ça, ça se passe pas sous leur nez sans qu'ils s'en rendent compte. Il y a une certaine forme de tolérance aussi que de la part de l'administration pénitentiaire devant ce phénomène.
C'est toujours compliqué de faire la différence entre l'administration et les gens. Je dirais pas qu'il y a une tolérance de la part de l'administration. Je pense pas que l'administration en elle-même tolère. Je pense qu'il y a une tolérance de la part des surveillants qui sont sur le terrain et qui savent très bien que leur problème, c'est pas d'aller faire chier le mec qui est en train de fumer un joint et qui fait chier personne. Il y a cette forme de tolérance-là. Après, ça n'empêche que t'as quand même des surveillants qui font du zèle et qui, à la moindre odeur ou moindre truc, effectivement, vont venir te prendre la tête. Mais, pour être tout à fait honnête, moi, personnellement, j'ai jamais éteint un joint parce qu'un surveillant arrivait, m'amenait ma gamelle ou autre. J'ai fumé tout le temps dans ma cellule. Et sur les 6 derniers mois, j'étais tellement énervé qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas fumé. Et jamais, 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 j'ai pris quelques précautions que ce soit parce qu'un surveillant arrivait. Après, par contre, je ne fumais que dans ma cellule. J'allais pas fumer effectivement dans les parties communes ou des choses comme ça. Et c'était même des discussions sur lesquelles on pouvait tomber d'accord quand je discutais avec des surveillants ou autres, quoi. Parce que les surveillants sont comme nous, finalement. C'est comme dans la police, c'est comme partout. De toute façon, des consommateurs, il y en a aussi parmi les surveillants. Donc,
tu dis qu'il y a des consommateurs parmi les surveillants. Est-ce que ça peut arriver de partager un joint avec un surveillant?
Non. Non, 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 non. Alors moi, ça ne m'est pas arrivé, malheureusement. Non, je n'aurais pas ce genre d'histoire à raconter. J'ai pu partager de la musique avec des surveillants, mais pas eu l'occasion de partager de joint, non.
Soyez au cœur de la justice. Devenez surveillant pénitentiaire.
Non, merci. Je choisis de vivre.
Et alors pourquoi est-ce qu'on fume quand on est en prison? Est-ce qu'il s'agit de passer le temps? Est-ce qu'il s'agit de s'apaiser? Est-ce que c'est la même consommation qu'à l'extérieur? Ou est-ce que finalement le cannabis prend aussi un autre rôle?
Alors le cannabis prend un autre rôle complètement, effectivement, à l'intérieur. C'est un peu une faille spatio-temporelle, quoi. On se retrouve effectivement dans cette bulle où le temps passe de manière très 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 bizarre et effectivement le cannabis aide à le faire passer d'une meilleure manière. Donc on se retrouve effectivement dans une situation où il y a beaucoup de gens qui finalement ne consomment pas dehors mais consomment à l'intérieur. Parce que la prison, l'enfermement et l'oisiveté qu'amène la prison pousse à la consommation. Mais l'oisiveté, oui, c'est quelque chose aussi de très important, en fait. Parce que au début de ma détention, je me suis fait 2-3 mois de purge. Pendant 2-3 mois, j'ai complètement arrêté de consommer, en fait. Et j'ai été très motivé, je lisais beaucoup, j'écrivais beaucoup. J'étais plein de projets. Et puis au fur et à mesure de me retrouver face à des murs, en fait, avec l'administration pénitentiaire, et de me retrouver face à cette incapacité de mener mes projets à terme, et ben j'ai perdu ma motivation. Et petit à petit, effectivement, j'ai commencé à faire de moins en moins de choses et à reprendre une consommation de plus en plus importante, quoi. Le problème, il est là aussi, c'est qu'effectivement, en prison, on a tellement peu d'occupations que fumer en devient une.
Et c'était quoi tes projets ?
Mes projets, c'était notamment de développer un blog, en fait. J'écrivais tous les jours, en fin de semaine, j'envoyais ça à une pote qui retapait ça sur ordinateur en vue de publier. Mais finalement, on m'a découragé de le faire et j'ai mis ça en stand-by. J'ai voulu ensuite me lancer dans des études et donc j'ai voulu passer une capacité en droit. Malheureusement, au moment où j'ai pu m'inscrire en fait en cours, j'ai commencé à travailler à l'atelier en prison et si je me retirais de l'atelier, ça risquait de nuire à mon dossier pour mon aménagement de peine, enfin un truc complètement stupide. Donc c'était compliqué de conjuguer les deux, l'atelier et le travail. Voilà, il y a un vrai sujet là-dessus sur la manière dont on occupe les détenus pendant le temps qu'ils passent entre ces quatre murs.
Voyez-vous, Monsieur Maigrat, je vais vous dire une chose. En prison, c'est presque obligé, l'homme médite. Résultat, j'ai la poésie dans la viande.
Est-ce que tu dirais qu'en prison, le cannabis est presque plus thérapeutique que récréatif?
Pour moi, en fait, c'est une des pires consommations, celle-là. C'est celle qui apporte rien. Enfin, elle apporte très peu. Ni le sourire, ni vraiment l'esprit détendu. Au final, ça devient un automatisme.
Depuis que t'es sorti, est-ce que la prison, ton expérience de la prison, a changé ton rapport au cannabis?
Eh bien, aujourd'hui même, ma consommation, elle est excessive. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est la consommation d'un mec oisif. Ce qui s'est passé, c'est que les 6 derniers mois de ma détention ont été assez horribles, donc j'étais dans un rythme de consommation effréné, dont je suis sorti en sortant de prison. J'étais super motivé pour faire tout un tas de choses. Mais je me suis retrouvé confiné. Et le confinement m'a remis dans cette consommation excessive. Et donc oui, voilà. Aujourd'hui, oui, j'ai une consommation dont je ne suis pas satisfait.
Merci beaucoup, Eric.
Merci beaucoup d'être venu partager ton témoignage dans Banana Kush.
Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir.
Banana Kush.
Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard?
Eh bien, puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là.
Banana, 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 nanana, nanana.
Après cette longue discussion avec Eric, on a voulu comprendre si son expérience particulière pouvait être généralisable. Savoir ce qui ressortirait de témoignages d'autres détenus et quels seraient leurs points communs.
On a donc passé un coup de fil à Nina Tissot. Nina habite à Lyon. Elle est éducatrice spécialisée et travaille en CARUD, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. En prison, elle anime des groupes de discussion et d'échanges pour accompagner les personnes incarcérées qui font usage de stupéfiants.
On a commencé par lui demander pour quelles raisons les détenus qu'elle rencontre consomment du cannabis.
Ça a rempli tout un tas de fonctions différentes. Et moi, ce que je trouvais très intéressant dans les groupes, c'était que c'était super varié. C'est-à-dire qu'il y en a qui disaient que c'était pour pouvoir dormir, d'autres que c'était pour pouvoir se lever le matin. Il y en a qui disaient que c'était vraiment pour pouvoir avoir envie de manger, fait avoir de l'appétit. Et d'autres qui disaient que vraiment, c'était plutôt pour remplacer l'appétit qui ne pouvait pas satisfaire en prison parce que la nourriture est trop mauvaise. Et finalement, de fumer des joints, c'est une manière de se remplir différemment qu'avec la nourriture. Il y en a qui bien commencent à leur permettre de planer, de s'échapper, de s'évader. Pour d'autres, ils disaient clairement que c'était une manière de se concentrer. Voilà, s'ils avaient besoin d'écrire à leur famille ou quoi, ils allaient fumer pour se mettre dedans, pour se concentrer. Il y en a, c'est pour être bien avec les autres, justement, avec ces formes de sociabilité. Il y en a d'autres, c'est pour fuir les autres et pour rester loin le plus possible de toutes les interactions qu'il peut y avoir en prison. Enfin voilà, c'est vraiment très hétérogène ce qui en est dit, et c'est, moi je trouve aussi, autant une manière d'être posé que d'être en mouvement aussi. Voilà, ça donne du mouvement dans la détention, et en même temps ça ancre et ça permet de se poser, quoi. Il y a un usage, en tout cas, de prise sur ce qu'on peut faire avec soi-même, et dans un environnement où vraiment qui est caractérisé aussi par l'absence totale de prise et de maîtrise de sa vie. Fumer des joints, c'est bien une des seules choses qui peut pas être contrôlée par l'administration pénitentiaire, qui va être aussi présentée un peu comme un choix et comme une marge de manœuvre personnelle. Et aussi un peu en ça, c'est quelque part, c'est un peu thérapeutique, quoi, de trouver un peu de l'autonomie dans le temps de sa détention. Il y a vraiment cette idée-là, vous n'allez pas aussi nous prendre ça, alors que ça, c'est super important pour nous. Fumer des pétards, ça donne aussi une certaine image de soi. Ça témoigne du fait qu'on a un réseau à l'extérieur qui peut nous en faire rentrer. En général, ça vient quand même plutôt des amis, de la famille à l'extérieur. Donc déjà, ça témoigne de ça, qu'on n'est pas isolé, qu'on a du réseau à l'extérieur. Ou éventuellement des relations suffisamment bonnes ou proches avec des surveillants pour qu'ils en fassent rentrer. Et ça nous donne une possibilité d'être en lien avec des gens. Alors la première personne, en général, c'est le co-détenu. Les détenus fument beaucoup ensemble en cellule. C'est quelque chose qui se partage en promenade. C'est une forme de sociabilité aussi, que ce soit pour l'accès aux produits ou pour le moment convivial de consommation.
Si on résume, le cannabis est à la fois un remède à tous les maux de la prison et une forme de sociabilité dans un lieu où elle manque cruellement. Et on peut même se demander si des détenus qui ne consommaient pas quand ils étaient libres finiraient par être tentés.
Oui, alors soit qui ont complètement commencé en prison, c'est quand même rare, mais beaucoup qui disent qu'ils ont repris en prison. Le cannabis faisait plus partie de leur vie depuis X mois, voire années, pour certains. Et c'est en tombant ou en retombant, parce que je rencontre quand même beaucoup de personnes pour qui c'est pas le premier passage en détention, mais qui ne fument pas vraiment en fait à l'extérieur. Par contre, c'est à chaque fois qu'ils sont incarcérés, ou ça ne fait pas deux jours qu'ils sont rentrés en prison, ils refument, quoi. Ça, ils le disent. Oui, il y en a beaucoup qui disent ça.
Banana Kush. Camille Diao. Christophe Payet.
Avant de conclure cet épisode de Banana Kush, on avait besoin de mettre tous ces témoignages en perspective, de dresser un tableau général pour mieux comprendre cette surconsommation de cannabis dans les prisons françaises.
Nous sommes donc allés à la rencontre de Marie Geoffrey Roustide. Sociologue, elle coordonne le programme Drogue, Sciences Sociales et Société à l'EHESS. Ses recherches portent à la fois sur les politiques publiques et sur les pratiques sociales des usagers de drogue, et elle s'intéresse notamment au milieu carcéral. Marie Geoffrey Roustide, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous êtes notamment la co-autrice d'un rapport publié par l'OFDT, l'Office français des drogues et des toxicomanies, paru en décembre 2019, qui s'appelle « Usage de drogue en prison ». C'est pour ça qu'on avait envie de discuter un petit peu avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelques mots sur ce rapport, peut-être en introduction ?
Oui, en fait, nous avons écrit ce rapport avec Caroline Proté et Julien Morel-Darleux. Nous avions fait le constat qu'on manquait de données fiables sur la question des usages de drogue en prison, qu'il y avait beaucoup de fantasmes autour de ces questions-là. Et donc, il nous semblait indispensable de faire un petit point. Et donc, on a mis en évidence que les usages de drogue en prison, et en particulier de cannabis, étaient particulièrement élevés. on a pris en compte des données qui reposent sur des enquêtes déclaratives, c'est-à-dire ce que les personnes détenues déclarent dans le cadre de questionnaires, mais on a également pris en compte des enquêtes qui sont réalisées au niveau européen aujourd'hui, qui reposent sur l'analyse des eaux usées. Parce qu'en fait, sur la question de l'usage de drogue, comme c'est une pratique illicite, on peut toujours faire l'hypothèse que certaines personnes ne vont pas oser évoquer des usages de drogue. Et donc, l'avantage des enquêtes par le biais des eaux usées, c'est qu'il n'y a pas ce biais de déclaration. Par contre, il y a d'autres biais, parce que quand vous analysez les eaux usées, vous analysez les consommations des personnes détenues, mais aussi de tout le personnel qui travaille en prison. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que malgré... l'ensemble des dispositifs de surveillance et contrôle qui sont mis en place pour limiter la circulation des drogues en prison, la présence des drogues est toujours importante.
Alors, on comprend bien qu'effectivement, la consommation de cannabis, en tout cas la présence de cannabis en prison, est extrêmement répandue. Est-ce qu'on a des chiffres
Oui, d'après les enquêtes disponibles, pendant l'incarcération, on a entre 30 à 50 % des personnes détenues qui déclarent consommer du cannabis en prison. À partir de l'analyse des eaux usées, on est sur des niveaux encore plus importants. C'est-à-dire des niveaux qui peuvent aller jusqu'à 10 fois ce qu'on observe en population générale.
Ça fait beaucoup là, non ?
Et alors, comment est-ce que le cannabis est rendu disponible à l'intérieur de la prison ?
Alors là, ça a été beaucoup plus compliqué de recueillir des données sur ces questions-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des produits qui passent par le biais des projections. Le cannabis est mis dans des petits paquets. Ensuite, il est projeté dans le cadre des cours, par exemple, de promenade. Le cannabis peut aussi rentrer par le biais des visites. Il y a des produits qui peuvent passer. Et puis, il y a également tout un pan qui est beaucoup plus mal connu et qui est très, très difficile à quantifier. C'est la question des produits qui rentrent par le biais des professionnels qui exercent en prison. Il peut y avoir parfois, mais de manière... très minoritaire de la corruption de surveillants qui peuvent être amenés à faire rentrer des produits en détention.
Est-ce qu'on peut observer une forme globalement de laisser-faire de la part du personnel, voire de l'administration ? Parce que quand on voit les chiffres de consommation, on se dit qu'en fait, c'est impossible sans fermer les yeux en fait, sur tels usages.
Alors, ça, c'est une question très délicate. Consommer des drogues, c'est interdit en France et c'est l'objet de sanctions encore plus importantes dans un lieu de privation de liberté tel que la prison. En revanche, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une forme de banalisation de l'usage du cannabis dans la société française. Donc, en fait, ces usages, ils se diffusent et ils se diffusent dans l'ensemble de la population, quelles que soient ses caractéristiques sociales. Ce qu'on peut voir, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, on peut faire l'hypothèse que des personnels pénitentiaires qui eux-mêmes consommeraient du cannabis à l'extérieur avec des modes régulés auraient peut-être un regard un petit peu plus tolérant, on va dire, vis-à-vis des usages de cannabis à l'intérieur en raison de cette banalisation de l'usage qu'on peut observer dans la société française en général. Mais la deuxième raison, qui est celle qu'on a véritablement documentée dans le cadre de l'enquête, c'est des formes d'empathie que peuvent éprouver un certain nombre de surveillants. Ils ont conscience, d'une certaine manière, de la dureté des conditions carcérales, qui sont particulièrement difficiles, voire indignes, dans certains établissements. Et moi, j'ai dans le cadre d'une enquête qui s'appelle l'enquête Pride, que je mène avec Laurent Michel et Philippe Trouillet-Gerfaux, j'ai réalisé des entretiens. J'avais certains surveillants qui me faisaient part de cette empathie, en disant on comprend bien qu'ils consomment du cannabis parce que moi, je ne tiendrai pas dans ces conditions-là. Il y a une troisième raison que moi, je n'ai pas observée, mais qui est décrite dans de nombreuses enquêtes, c'est la question de l'utilisation des drogues par l'administration pénitentiaire comme une forme de contrôle également, de renforcement du contrôle, en disant au moins quand ils sont sous l'usage du cannabis, ça va les calmer un peu et donc on aura moins d'épisodes de violence, etc.
Si on met bout à bout l'usage massif du cannabis en prison, la diversité des usages et des motivations de cet usage, un certain laisser-faire de la part du personnel, voire de l'administration, tout ça donne l'impression que finalement le cannabis a un rôle social central dans la vie de la prison.
Tout à fait. Le cannabis a une fonction centrale, vous avez tout à fait raison, une fonction thérapeutique pour les individus, mais qui sert aussi à l'institution pénitentiaire, parce que voilà, les personnes détenues vont être calmées, entre guillemets, par le cannabis. Et également, des fonctions de reproduction de la vie sociale de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en consommant du cannabis, on a un peu de la vie dehors qui rentre à l'intérieur.
Il fait chaud dans la maison, il fait bon dans la maison. À demain, mes champions.
Le cannabis, il est aussi lié, comme la circulation des produits en détention, à des effets de domination entre détenus, des rapports de pouvoir. Et donc, on observe une reproduction de ce qu'on peut voir à l'extérieur, avec des hiérarchies entre ceux qui tiennent le marché et puis ceux qui vont être amenés à servir de mule, à passer les produits pour les autres.
Est-ce que l'administration pénitentiaire s'est emparée de cette question, de la question des drogues et du cannabis en particulier, pour mettre en place une politique, que ce soit répressive ou une politique de prévention, de soins ?
Alors, l'administration pénitentiaire, elle a mis en place une réponse répressive. Des murs anti-projection et également une augmentation des fouilles, à la fois des fouilles des cellules et puis des fouilles lors des visites. Donc, pour le moment, de manière officielle, la réponse de l'administration pénitentiaire, c'est une réponse exclusivement répressive. En revanche, quand on interroge certains directeurs, au niveau local, on peut observer qu'il y a des attitudes beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus compréhensives vis-à-vis des fonctions sociales de l'usage de drogue en prison. Ça ne veut pas dire qu'elles soient permissives. C'est des directeurs et des directrices de prison qui peuvent être sensibles à l'importance de mettre en place une équivalence dans l'accès aux soins, mais qui ne peuvent pas s'exprimer publiquement sur ces questions-là parce qu'ils ont un devoir de réserve lié à leurs fonctions.
Est-ce que vous avez des recommandations pour améliorer justement la réduction des risques, la prise en charge des addictions, etc.
Donc ma première recommandation, ça serait garantir aux personnes détenues un accès équivalent aux moyens de prévention et de traitement. La deuxième recommandation, c'est améliorer les conditions d'incarcération. La troisième recommandation que j'aurais à faire, c'est également travailler sur la question de l'occupation. Faire en sorte que les personnes détenues aient un meilleur accès à l'éducation, à des activités sportives, à des activités culturelles, à des activités d'insertion. Ça permet de diminuer l'usage de drogue en prison et puis surtout, ça permet de préparer la réinsertion pour la suite.
D'où viennent les centaines de milliers de tonnes de bananes que nous retrouvons été comme hiver sur nos étals?
Ring, 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 banana phone.
Il y a une sacrée résonance entre les propos de la sociologue et l'histoire d'Eric, qui nous racontait un peu plus tôt comment le système carcéral finalement avait découragé ses projets d'écriture, puis ses études de droit.
Si tu me le permets, Christophe, pour conclure notre sujet, j'aimerais bien te faire la lecture.
La lecture de quoi ?
Alors, en faisant quelques recherches, je suis tombée sur un article de Guillaume Monod, qui est psychiatre à la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis, à Villepinte. Et voici ce qu'il écrivait en 2017 dans la revue Pratique en santé mentale. Le cannabis est l'arlésienne de la prison. Tout le monde en parle, mais on ne le montre jamais. Il est un objet carcéral total, car il révèle et mobilise tous les aspects de la détention. Interdit par la loi, mais omniprésent dans les cellules, le cannabis peut être source de violence et d'apaisement. Il est à la croisée des libertés et des contraintes. Il constitue à la fois un lien et une barrière, il est le paradigme des ambivalences constitutives de la prison. Je l'aurais pas mieux dit.
Un coupable est beaucoup moins dangereux en liberté qu'en prison.
Pourquoi ?
Parce qu'en prison, il contamine les innocents.
Cet épisode de Banana Kush touche à sa fin. Merci à Eric, à Nina Tissot, à Marie-Geoffrey Roustide. Un grand merci aussi à Mona Delahaye, notre stagiaire qui nous a aidés à préparer ce podcast.
Comme toujours, spécial casse-d'aide à notre réal 5 étoiles, Charlène Nouilloux. D'ailleurs, en parlant d'étoiles, on attend les vôtres et vos commentaires et vos émojis sur les plateformes de podcast.
On se retrouve dans 15 jours avec un grand entretien mystère.
Allez, un petit indice quand même. Crustacé.
Non Camille, mollusque, pas crustacé.
T'es sûr?
Oui, mollusque.
Ok, bon, mollusque. Vous n'en saurez pas plus. En tout cas, on a hâte. À dans 15 jours.
Allez, ciao.
Ciao.
Blanche-Neige, Stick, Kif, Trip et Joint, Hervé voyage au bout de l'acide, lysergique, dithylamide et la nuit.
Bon alors Christophe, elle est prête cette banane de fin?
Ouais, elle est quasi prête, mais je me suis laissé distraire. Attends, mais regarde, on est dans Gala.
Dans Gala?
Oui, dans Gala, Camille, c'est écrit noir sur blanc, regarde. C'est un entretien sans langue de bois et sans détour qu'a accordé Benoît Hamon pour les besoins du podcast Banana Kush. Ça y est, ouais, on est dans la presse people.
Putain, la classe, la consécration, ça y est, on peut mourir tranquille.
Non, on pourra mourir tranquille quand on sera dans 50 minutes inside. Alors là, le jour où Nikos prononcera les mots Banana Kush, là, on pourra mourir tranquille,
okay,
Camille.
Ok, j'ai compris, je m'occupe d'inviter Nikos.
Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.
J'en ai conclu très vite que ce n'est pas le temps qui fuit, que c'est probablement nous qui le fuyons. Le temps se joue de notre amnésie. La question n'est pas de savoir ce que nous avons fait de notre temps, mais ce qu'il a fait de nous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.